Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Alexandre Goudarzi.
Bonjour.
Alors, je vous ai présenté plusieurs fois depuis le début de cette semaine comme auteur de cet ouvrage aux éditions du Rocher, Guerrier de la paix, mais vous êtes directeur adjoint des opérations, responsable du développement, donc chez SOS Chrétien d'Orient. Est-ce qu'on peut dire que c'est une promotion après les 66 jours d'enfer de prise d'otage que vous avez vécu?
Et en fait, effectivement,
c'est avec un peu d'humour que j'introduis l'émission du jour.
C'est vrai que c'est une promotion, c'est un poste à responsabilité plus importante.
Ça consiste en quoi aujourd'hui, très concrètement, ce travail?
Eh bien, en fait, c'est surtout de développer, parce que je suis responsable du développement, c'est de développer des missions dans lesquelles on n'est pas encore présent. C'est-à-dire, par exemple, le Pakistan, ce sont des projets qu'on gère à distance. Le pays est trop dangereux pour qu'on y envoie des volontaires ou un chef de mission qui y vivrait à l'année. Donc, on mène des opérations à distance en s'y rendant de temps à autre de manière très ponctuelle et assez régulière, même si là, c'est compliqué, libérer des esclaves au Pakistan, des esclaves chrétiens, et aussi développer la mission, par exemple, en Éthiopie. Mais une fois qu'il y a un chef de mission en place, qui reçoit un budget, qui reçoit des volontaires, et qui gère des projets pour aider les chrétiens à rester sur la terre de leurs ancêtres, eh bien, ma fonction s'arrête là, en fait. C'est-à-dire que c'est la mise en préparation, c'est la préparation d'un chef de mission sur place. Donc voilà.
Alors, les difficultés sont liées à la pandémie mondiale que nous connaissons?
Alors il y a eu ça, parce qu'en plus ça correspondait au même moment à notre enlèvement, L'Éthiopie, le problème c'est que c'est une mission qui est retardée parce qu'il y a la guerre, les Tigréens descendent sur la capitale et en fait c'est très compliqué de travailler dans des conditions de ce type, et le Pakistan c'est tout simplement parce que de base c'est un pays dangereux, c'est un pays qui est wahhabite avec une rue islamiste très très radicale, c'est un pays aussi, indépendamment de la religion, qui est sur fond tribal entre les Panjabis, les Pashtuns, les Baloutches, etc. Est un peuple dangereux aussi dans leurs mœurs. Hein. Et puis, avec le nouveau régime à Kaboul, le retour des talibans. Et en fait, en Pakistan, vous avez Daesh, les talibans, Al-Qaïda autour de vous, mais il n'y a pas de guerre. Donc, ils sont là, ils sont dans la masse, ils sont dans la population, ils sont tout autour de vous. Donc, vous êtes une cible quand même permanente. Et depuis la relance des caricatures l'année dernière, etc., et le tollé que ça a fait en France, le monde entier a oublié. Les Pakistanais n'ont pas oublié. Ils continuent à défiler dans les rues devant l'ambassade de France pour exiger le départ de l'ambassadeur, qui d'ailleurs, je crois, est parti
depuis longtemps. Vous voulez passer un message, c'est-à-dire on oublie trop vite?
Oui, aussi, mais c'est-à-dire que eux n'oublient pas, en tout cas, de toute façon. Hein, leur conception en fait de la chose, pour eux c'est une véritable insulte par rapport à leur religion, enfin bref, et si vous êtes français et que vous promenez à Karachi ou je ne sais où, Islamabad ou Lahore, enfin bref, vous êtes en danger, voilà, un français au Pakistan c'est pas le meilleur timing en fait, si vous voulez, en ce moment. Puis bon, j'ai un peu donné déjà en kidnapping.
Vous savez de quoi vous parlez. Alors c'est vrai que l'actualité aussi mondiale depuis des mois et des mois, et vous en savez quelque chose autour de cette pandémie et de ce que l'on connaît aujourd'hui. Cette pandémie, au fond, ce virus, permettez-moi, vous l'écrivez, mais c'est l'histoire aussi, c'est votre épisode aussi que vous avez traversé. Ce virus que nous connaissons aujourd'hui vous a apporté le grand miracle, puisque cette prise d'otage, c'est le virus quelque part qui vous a libéré. Alors, vous pouvez un peu relater et revenir sur cet épisode la prise d'otage et au fond du grand miracle.
C'est ça, hein, c'est-à-dire que nous, on est passé vraiment par plusieurs phases. Une prise d'otage, vous savez, ça dure très longtemps. Les services qui étaient en relation avec nos familles, enfin, de manière indirecte, mais le Quai d'Orsay, on a fait comprendre à nos familles, écoutez, s'ils sont vivants, ne vous attendez pas à les revoir avant un an et demi, deux ans. Ces histoires-là prennent du temps. Les types qui nous prennent n'ont aucun intérêt à nous relâcher au bout de 2 mois, 6 mois. Le but, c'est qu'on prenne de la valeur. Et donc...
Donc vous êtes une marchandise.
On est une marchandise, ouais.
On fait du commerce, on monte les prix.
Oui, c'est ça. On est espèce d'action, on attend que ça prenne de la valeur avant de la refourguer. Et en fait, Ben effectivement, il y a quelque chose qui vient casser cette donne, qui vient démonétiser en fait les sujets en question. Ce virus, voilà. On ne sait pas du tout. Vous imaginez, on n'a pas le recul qu'on a aujourd'hui. Et encore, la paranoïa revient avec la cinquième vague. Mais imaginez là-bas, ça fait quelques semaines que c'est en gestation, que ça contamine les sociétés. On est à côté de l'Iran. L'Iran, c'est comme l'Italie en Europe. C'est un pays qui est ultra contaminé. Beaucoup de morts. On est dans des endroits insalubres. Hygiène et tout le tralala, ça n'existe pas. Donc on est très très vulnérable en fait à cette maladie que nous on ignore. On ignore que cela a lieu.
En fait, vous n'avez aucune information. Vous ne connaissez pas du tout, ce virus.
On n'a aucune connaissance de cela. Et puis, donc voilà, en fait, pour ces gens-là, ce truc-là peut complètement nous démonétiser. Et en fait, ça devient un fardeau. C'est-à-dire que s'ils rendent 4 cadavres à l'État français au lieu de 4 types plus ou moins bien portés en échange de ce qu'ils réclament, des armes, du fric, allez savoir. Bon, bah là, au final, on est devenu une patate chaude qu'il fallait dégager. Et oui, moi, j'affirme très clairement que c'est le coronavirus. Virus qui nous a sauvés. Dieu a permis un ennemi encore plus puissant que nos ennemis et on a été libérés grâce à ça. Et effectivement, quand ils sont venus nous apporter la nouvelle, en fait, pour nous dire voilà, vous allez être libérés.
En fait, vous n'y croyez pas.
Mais non, on n'y croit pas. Ils nous ont menti. Chaque fois qu'ils nous ont passé d'un point, qu'ils nous ont changé d'endroit, c'était toujours un endroit plus glauque que le précédent et à chaque fois, ils nous faisaient croire qu'on était libres. Donc le jour où ils se pointent dans notre cellule après 9 semaines de détention et qu'ils viennent et qu'ils nous disent bon les gars, on a une bonne nouvelle pour vous. Oui bah vas-y, cause toujours. Si vous allez voir à compter d'aujourd'hui, dans une semaine vous êtes auprès de vos familles. On réagit pas en fait. On a envie qu'il s'en aille, qu'il arrête de se moquer de nous. Et il dit vous devez croire. Et le monde est à l'agonie, c'est l'apocalypse. Alors il nous décrit etc.
En fait pour vous, vous n'y croyez pas. C'est un film de science-fiction.
Non, c'est impossible. Oui c'est un truc hollywoodien. Il a vu un film hier et puis il s'est dit tiens j'ai une bonne blague aujourd'hui. Je vais vous raconter ce que avec ma petite famille on s'est maté comme film à la télé. Enfin je sais pas. Et en fait ils nous mettent la télé là pour le coup. Ils nous mettent la BBC. Ils nous montrent les images et
Le monde à l'arrêt
voilà. On voit les gens qui se saluent. Plus
personne
avec
dans les rues,
coude,
les masques.
Talons. Oui, les masques, tout ça, les gestes barrières, les moules. Oui, enfin bref, tout ça. Et donc, on se dit.
C'est un état de sidération, là, devant ces images.
Bah ouais, et puis en fait, alors, il y a une nouvelle peur qui se développe en moi, c'est. Est-ce que ma famille va bien ? Parce qu'on ne sait pas comment ça vous tombe dessus d'un coup. Moi, j'imagine effectivement les cadavres dans les rues, les gens qui tombent comme des mouches, parce que c'est comme ça qu'ils nous le présentent aussi. Alors. Mais je me dis, c'est ce truc-là qui va nous sortir d'ici. Et là, toutes ces fois où on avait prié, toutes les fois où on prenait conscience, vraiment, quand on priait le Seigneur, on savait, enfin vraiment, demandez et vous serez exaucés, enfin, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous répondra, etc. Enfin, à la mesure de la foi qu'on met dans nos prières, on est exaucés. De prier avec la satisfaction d'être exaucés, mais dans un temps, en fait, qui nous échappe complètement. C'est pas la satisfaction là tout de suite d'être exaucé, mais de savoir que Dieu dans l'éternité, il nous a déjà exaucé. Et c'est vraiment en fait, là il y avait la réponse à nos prières, c'était concret. Qu'est-ce que vous aviez comme chance sur des centaines de milliards pour que vous ayez une maladie improbable comme celle-ci qui vienne faire capoter les plans de type, mais qui avait aucune faille en fait dans leur système. C'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait nous libérer ? Et puis, on entendait les avions, les Américains. Il y avait une escalade entre l'Iran et les États-Unis. On était au milieu de tout ça. Nous, on avait peur que les Américains viennent bombarder ces types-là et qu'on soit au milieu des obus. On avait peur qu'une milice rivale ou qui vienne se disputer contre eux et nous rafler comme prise de guerre. On avait peur qu'ils nous exécutent pour X raisons. On avait peur qu'ils en exécutent un d'entre nous pour faire accélérer le processus de négociation avec la France. On avait peur qu'ils nous revendent à Daesh. Par opportunisme, même s'ils sont pas alliés idéologiquement, toutes les hypothèses étaient présentes sur la table et c'était pas une vue de l'esprit parce qu'après débrief avec les renseignements, ils nous ont dit on avait peur de tout ça. Donc là, il y a un truc qui s'appelle coronavirus qui déboule et qui fout tout en l'air. Et nous, on est libres. Donc si on peut pas voir la main de Dieu derrière tout ça, enfin je sais pas comment il faut appeler ça. C'est pas non, c'est clair, c'est clair. Alors je dis pas que Dieu veut la mort. Je dis que Dieu, en tout cas d'un mal, il en fait un grand bien. Voilà, on voit des fleurs pousser sur du fumier, ça existe, c'est de l'engrais. Eh bien, de cette maladie, nous, en tout cas, il nous a donné notre liberté. Et j'en suis... Alors, je suis désolé pour toutes les gens, les personnes qui nous écoutent et qui ont vécu des moments très douloureux dans leur vie au quotidien par rapport au corona. Mais c'est vrai que pour nous quatre, c'était la sortie vers la lumière, quoi.
Donc au fond, l'arrivée de ce virus, c'est la main de Dieu dans l'histoire des quatre otages qui vivent une pression. On entend bien, vous l'écrivez aussi et vous l'avez dit à plusieurs fois, c'est une forte pression psychologique que vous vivez.
Oui,
et
oui.
Non pas une pression, une maltraitance physique, mais on essaie de vous... Et vous tenez bon, et vous tenez bon, et vous avez parlé de prière, vous le témoignez, vous l'écrivez dans votre livre, vous avez ces moments individuels qui deviendront aussi des moments collectifs de prière.
Oui, oui. Oui, oui, on jeûne, on fait le rosaire tous les mercredis, tous les vendredis. On se confesse un petit peu les uns les autres. Il y en a, et parfois on fait des points
c'est
géopolitiques.
C'est une petite communauté de prière qui s'installe.
Complètement, complètement.
Entre frères.
Oui, complètement. Et puis, il y a un peu essayer de lire en fait les événements à la lumière de l'évangile un petit peu, de ce que moi je rapporte un petit peu de mon expérience conventuelle de 9 mois que j'avais vécu avec les franciscains, de tous ces enseignements que j'avais reçus, de se dire, mais voilà, est-ce que Dieu veut ça ou est-ce qu'il l'a permis? Et s'il l'a permis, pourquoi? Et c'est d'accepter de dire, mais je suis pas dans les grands projets de Dieu, enfin, je suis dedans, mais je le comprends pas. Est-ce que je vais faire obstacle à ce que Dieu veut et permet à travers ce drame, ou est-ce que je collabore tout en portant ma croix à quelque chose de plus grand, mais qui me dépasse dans ma conscience, dans ma prise de conscience, en fait, de ce dessein, de ce qu'il fait, en fait, dans tout cela. Et vraiment, on a été très heureux du résultat.
Voilà. Merci Alexandre Goudarzi, toujours très très animé. Un guerrier de la paix et un guerrier passionné de la paix. J'invite donc les ceux et celles qui vous découvrent et vous écoutent donc à découvrir d'une part aussi cette association et puis soutenir cette association SOS Chrétien d'Orient. Donc vous pouvez donc taper sur moteur de recherche Google et vous trouverez le site de l'association pour laquelle finalement vous travaillez. Vous missionnez, la mission est importante et puis ce travail est un travail missionnaire. Alexandre Goudarzi, on se retrouve demain et ça sera donc le dernier moment de cette série et nous sommes toujours ici, pas très loin de la grotte Massabielle à Lourdes. À demain.